Vous êtes sur Studio ZEF et c'est l'heure de Feuilles Vives, votre émission de reportage entre ville et campagne. Quatrième émission de Feuilles Vives, petite parenthèse aujourd'hui entre deux réflexions sur les rapports ville-campagne, pour mettre en lumière une initiative originale du Conseil régional du Centre-Val de Loire, la tournée citoyenne pour une démocratie permanente. Que se cache donc derrière cette formule pour le moins jargonneuse, langue de bois ou volonté de changement des pratiques politiques? On écoute l'élu régional écologiste porteur du projet.
Moi je m'appelle Charles Fournier, je suis blésois et je suis vice-président de la région en charge des questions de démocratie, des initiatives citoyennes, du développement rural, de la coopération et de l'égalité. Une délégation très citoyenneté et solidarité. La région qui a initié cette démarche, qu'on a appelé faire vivre une démocratie permanente en région Centre-Val de Loire. Elle l'a fait en partant du constat d'une situation difficile pour la démocratie, en tout cas d'un doute de beaucoup de concitoyens sur l'efficacité de la démocratie aujourd'hui, un doute même allant jusqu'au rejet des institutions et de ceux qui les représentent, un doute sur l'efficacité des politiques publiques qui sont conduites. Et donc cette situation-là, on ne peut pas, une fois élu, faire comme si elle n'existait pas. Je crois qu'il faut la regarder un peu droit dans les yeux. Et puis en même temps, parallèlement à ça, on a des tas de gens qui ont envie d'entreprendre, qui ont envie de prendre des initiatives. Alors c'est souvent des réseaux, c'est pas tout le monde, mais il y a un potentiel d'énergie citoyenne qui est, à mon sens, sous-exploité, ou en tout cas qui est mis à côté d'eux. C'est-à-dire qui n'est pas perçu comme étant porteur du développement des territoires, de nouvelles formes de politique publique. Donc partant de ce constat-là, on s'est dit, il faut engager un débat, il faut engager un travail sur la démocratie. On a appelé ça démocratie permanente parce que l'idée, c'était de dire il faut que la démocratie elle vive tout le temps, entre deux échéances électorales, que le vote n'est plus l'alpha et l'oméga de la démocratie, et on le sent bien. Et en même temps, il faut qu'elle vive partout, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit inclusive, il faut qu'on repose des questions d'égalité, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans égalité. Une fois qu'on a dit tout ça, comment on s'y prend? On s'est dit qu'il faut multiplier les formes d'implication des citoyens, parce qu'il y a comme ça où on arrivera à impliquer la diversité des citoyens. Parce que les modes de vie des uns et des autres ne se croisent pas forcément, parce que tout le monde n'a pas le temps, parce qu'il y a des gens qui ne viendront pas dans des salles, parce que la forme dans une salle, c'est la prise de parole et que c'est inégalitaire, parce qu'il y a des gens qui ne se poseraient pas la question, mais si on va leur poser, d'un coup, ça deviendra une question. Donc, on s'est dit, on va entreprendre quelque chose d'assez large, avec plein de formes. Donc, on utilise des formes classiques dans des instances de participation qui existent. On a engagé une tournée citoyenne où on va à la rencontre des territoires dans leur diversité. On essaye, en tout cas. Moi, je n'ai pas la prétention de réussir à toucher tout le monde et à réussir à mobiliser tout le monde, mais en tout cas, progressivement, d'élargir le cercle et surtout tester ensemble des outils, des méthodes qui nous permettent d'élargir ce cercle de ceux qui participent. Dans cette tournée, c'est des journées entières en immersion dans les territoires. Déjà, ce n'est pas banal, parce que souvent, les élus, ils viennent, ils repartent, ils zappent un peu, voilà, parce que leur agenda ne rend pas possible. Là, l'idée, c'était de prendre le temps d'aller rencontrer des acteurs inspirants, parce qu'ils ont des choses à nous dire sur ce sujet-là, d'aller rencontrer aussi des fois des gens en colère, qui mènent des combats et qui ont besoin d'être écoutés, ou qui, de leur combat, ont développé des expertises qui peuvent être utiles pour cette démocratie. D'aller rencontrer monsieur, madame, tout le monde, j'ai horreur de cette expression, mais j'en ai pas d'autre, dans des supermarchés, dans des entreprises, dans des cafés, dans des petites communes rurales, et puis faire des temps où on essaye d'élaborer ensemble des propositions pour améliorer la démocratie, parce que c'est l'affaire de tous, c'est ça l'idée. Et ce qui est peut-être un peu original, qui peut ne pas le paraître de prime abord, c'est que quand on va voir les gens, on ne leur dit pas « qu'est-ce que vous attendez de la région ?». Ce n'est pas la liste de courses que j'ai à faire à la collectivité qui envoie un rapport un peu consumériste, mais c'est « qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer la démocratie ?». Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour élargir le cercle ? Parce qu'on est tous un peu coincés devant cette question.
Pour ce faire, la région a lancé une vaste consultation citoyenne. Entre le 8 février et le 12 juillet, une camionnette labellisée « démocratie permanente » s'est arrêtée dans les 23 principales agglomérations de la région pour emmener Charles Fournier et d'autres élus locaux à la rencontre des citoyens et ainsi recueillir leurs propositions. Cette initiative inédite est le fruit d'une collaboration entre la région et le collectif Démocratie Ouverte. Ce concept est né en 2009 à la suite de l'élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis sous le nom d'Open Government Initiative. Initiative qui n'a pas vraiment tenu ses promesses d'améliorer le fonctionnement de la démocratie américaine, c'est le moins qu'on puisse dire. Le collectif Démocratie Ouverte regroupe des innovateurs démocratiques comme des médias en ligne ou des start-up de la Civic Tech. ces technologies numériques permettant aux citoyens de participer à l'action publique. Il en émane également des projets comme le laboratoire THC pour Territoire Hautement Citoyen, qui doit mettre en relation ces innovateurs avec les collectivités locales. Explication d'une des initiatrices de ce projet, Enora Conan.
Avec Territoire Hautement Citoyen, on s'adresse plus aux collectivités, aux territoires qui ont envie de simplement prendre le train en marche de la transition démocratique, parce qu'elle est bien là. La transition, d'une manière générale, est là. De toute façon, notre monde a déjà changé. Et nous, on considère que les élus ont besoin d'être accompagnés là-dedans. Et on propose donc aux territoires d'expérimenter avec nous de nouvelles façons d'agir pour une démocratie autrement. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici en région Centre-Val de Loire. On propose ça et en fait on est aussi l'interface entre les membres de démocratie ouverte qui sont donc des innovateurs démocratiques et des territoires qui ont envie de tester. Et donc on peut mettre toutes ces personnes-là en relation et créer des expérimentations sur mesure. Donc on est toujours dans le... Nous, c'est en ça qu'on est un laboratoire et qu'on est dans un travail de recherche-action et de façon à permettre d'insuffler de nouvelles façons de faire. Il y a des choses qui se passent en dehors aujourd'hui des pouvoirs publics, c'est-à-dire qu'avant, on attendait tout des pouvoirs publics, d'une manière générale, on était dans cette posture plutôt attentiste, c'était les pouvoirs publics qui devaient mettre les choses en œuvre, alors qu'aujourd'hui, avec l'évolution, notamment à l'explosion du numérique dans notre société, on n'arrête pas de parler du passage de ce modèle pyramidal, au modèle horizontal, et c'est aussi ce qui se passe dans la transition démocratique. Tout ne va pas se passer avec le numérique, mais c'est un catalyseur. Donc en fait, tout s'accélère. Et là, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, je dis que la transition, elle est en marche, elle est là. De toute façon, il faut réagir parce que justement, tout est en train de s'accélérer. Et donc, les territoires qui ne s'emparent pas de ça vont être de plus en plus désolidarisés de leurs citoyens. Aujourd'hui, aujourd'hui et demain, très, très, très prochainement, des décisions politiques qui auront été prises sans consulter les citoyens par le numérique, puisque les outils existent, ne seront pas légitimes. Voilà un exemple de cette transition démocratique donc, qui est bien là. Donc il faut apprendre à fonctionner autrement. Il faut que les élus arrivent à faire autrement et à faire avec et à construire avec leurs citoyens.
Et forcément par le numérique ou...
Ben non, alors justement, ce qu'il y a, c'est qu'il y a cette complémentarité. On a le numérique qui est l'outil et qui est un catalyseur. Et ensuite, il faut imaginer ensuite autour tout le concept de présentiel. Et c'est ce qu'on fait au niveau de la tournée citoyenne, par exemple. C'est-à-dire qu'on a bien évidemment les outils numériques qui sont là, qu'on utilise. Alors, il y a la plateforme, il y a la page Facebook, on a une chaîne YouTube, on a une émission sur Acropolis donc, qui s'appelle Bouge ta démocratie. Donc, on a bien, nous, enclenché tout ça. Mais ça s'anime avec le présentiel en allant en tournée dans les 23 bassins de vie. Et donc, ce qu'on propose au niveau du laboratoire donc de Territoire Hautement Citoyen, c'est d'expérimenter tous ces dispositifs-là et de l'alliance entre le numérique, le présentiel et aussi des nouvelles façons de communiquer. Parce que dans la transition démocratique, ce qu'on voit aussi, et on le voit là, on le ressent très très fort dans la tournée, c'est que parler pendant 2 heures à des gens et espérer qu'ils nous ont écoutés et qu'ils vont avoir retenu ce qu'on avait envie de leur dire et que c'est une façon de les faire participer, ça marche plus du tout. C'est-à-dire que l'élu doit co-construire vraiment et pas uniquement au moment des temps de campagne. Il doit vraiment co-construire au quotidien avec les citoyens qui sont eux-mêmes aujourd'hui tout à fait beaucoup plus en capacité avant d'avoir l'info, d'avoir cet accès à l'info. Et en plus, non seulement ils sont en capacité, mais en plus, s'ils ne l'ont pas, c'est pas normal. Ils trouvent que c'est pas normal. Donc il faut répondre à ces besoins-là aussi.
Le 5 juillet dernier, c'était au tour de Blois d'être visité par la tournée citoyenne. Retour sur cette journée avec Armel Lecause, cofondateur du collectif Démocratie Ouverte.
On a commencé ce matin à se retrouver dans un café associatif où dans le café, il y avait des porteurs de projets, d'initiatives citoyennes. Ensuite, donc là, c'était comment est-ce qu'on s'inspire et comment on voit que ceux qui portent des initiatives, parce qu'il y en a plein partout dans tous les territoires, des gens qui portent des initiatives super inspirantes, super intéressantes. Et une des questions qu'on leur a posées, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ces initiatives gagnent en ampleur, en puissance, en impact.
Mais je trouve que ce que tu dis, Arthur, ça me fait penser à ce que tu disais, Armel, tout à l'heure, par rapport à, oui, ces projets, malgré tout, même si nous, on vit dedans au quotidien et qu'on est dans une espèce d'énergie comme ça, qu'on arrive à se transmettre les uns les autres, ça reste malheureusement extrêmement marginal au vu de toute la société. Et justement, peut-être que pour sortir de cette marginalité, ça passe par un dépassement de cet entre-soi. Et peut-être que nous, si on a peut-être aussi cette envie-là. Enfin, je rejoins ce que tu disais sur présenter ces projets. Enfin, c'est vrai que voilà, Nous, ça nous semble évident que ça existe, qu'à Blois, il y a plein d'initiatives, il y a tout un réseau autour de ça. Mais il y a aussi plein de gens qui ont l'impression de vivre dans une ville morte où il se passe rien, où il y a plein, où personne, enfin voilà, ce rapport avec les élus est inexistant. Et je pense qu'on a peut-être aussi une responsabilité, ou en tout cas qu'il y a un vrai enjeu derrière ça, d'arriver à, et notamment les jeunes, parce que c'est eux qui feront la société de demain, enfin en tout cas qui pourront la faire. Et si on arrive justement à communiquer ça, j'ai pas la solution et je sais pas par quel canot ça pourrait passer, si c'est par l'école, si c'est par des temps, voilà, autour de ces réflexions-là. Mais je pense que justement, il y a vraiment quelque chose qu'on doit saisir, quoi, là-dessus.
Ça, c'était le premier temps. Deuxième temps, on était dans un théâtre rural à 20 minutes de Blois. Et du coup, là, dans le théâtre, on a fait une méthode. On a utilisé une méthode qui s'appelle la méthode des six chapeaux, où en gros, on a demandé sur la question de la culture dans un milieu rural, comment est-ce que cette culture pouvait permettre de développer justement la citoyenneté, de développer le fonctionnement d'une démocratie plus ouverte, plus efficace, plus permanente. Et donc là, il y avait pas mal d'acteurs qui ont été réunis par les acteurs du théâtre eux-mêmes, donc des acteurs culturels, des châteaux qui étaient à côté, des acteurs d'autres structures qui étaient invités et qui sont retrouvés dans ce théâtre pour imaginer ensemble la question de la culture et de la citoyenneté.
Des chapeaux. Qui est-ce qui connaît la méthode des six chapeaux?
Bon, on va utiliser cette méthode-là, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ce que je vous propose, c'est que les personnes qui sont nées en janvier et février se lèvent.
Ok, alors vous allez être le chapeau noir. Donc quelqu'un, l'un de vous, vient chercher le chapeau noir.
C'est le chapeau Havana, surtout.
Et c'est le chapeau Havana, c'est le chapeau noir. Et donc, votre rôle, ça va être de traiter cette question et de répondre à cette question. La culture est un levier de la participation en milieu rural, qu'avec un aspect négatif. Vous allez être que sur les problèmes, les risques liés à ça, ce qui ne marche pas, ce qui fait que c'est lent, que ça galère, etc. Donc, vous êtes les plus négatifs des négatifs, okay, pour traiter cette question-là. Il y a un moment, vous allez, à la fin, devoir nous restituer ce que vous avez dit de négatif, et vous pouvez le faire sous forme théâtrale, sous forme de texte, sous forme de... comme vous voulez, mais vous pouvez être aussi originaux dans la forme dont vous nous restituez ce qui a été négatif. vous le faites en groupe.
Alors, l'avantage de la méthode des six chapeaux qu'on utilise, ça s'appelle les six chapeaux d'Edouard de Bono. C'est une méthode créative qui permet en fait de travailler une question en mettant un chapeau, on le met même physiquement, là j'ai ramené des vrais chapeaux, mais qui en fait correspondent aussi à le fait de se mettre dans un personnage avec un prisme particulier. Parce que de manière naturelle, on va avoir notre propre prisme, à dire par exemple être dans le jugement négatif et dire non, ça va pas marcher parce que il y a tel problème, etc. Ou il y a des personnes qui naturellement vont être beaucoup plus dans une logique créative en disant ah oui, ça m'évoque telle idée, ah oui, on pourrait aussi faire ça, et ça. Et donc là, on force un peu des personnes qui ne seraient pas a priori dans leur propre zone de confort à venir adopter une autre posture. Et donc ça permet de développer des nouvelles idées, des nouvelles propositions en adoptant un point de vue différent et qui est représenté par ce chapeau.
Il y a aussi des choses à dire sur la culture. Alors vous dire que nous, d'abord, la culture, on a d'autres chats à fouetter d'abord. On a quand même un peu d'autres soucis dans nos communes. La ruralité, elle est abandonnée. Personne s'en occupe. Ouais, le très haut débit, on ne le verra jamais. Dans nos communes, il faudrait d'abord qu'on refasse la voirie, parce que la voirie, quand même, c'est essentiel. Si on veut pouvoir se déplacer, si on veut pouvoir aller au PMU, si on veut pouvoir aller en ville, eh ben, on a d'abord besoin de tout ça. Et puis alors la participation, moi, ça me fait rigoler. Ça fait des années que j'essaye de discuter avec les habitants. Ils n'ont pas envie de participer. Ils n'ont pas envie de participer. Donc qu'est-ce que vous allez les emmerder avec votre histoire de participation? C'est bien une idée des citadins, ça.
Ah bah ça.
Et donc ça, franchement, donc la culture... l'utiliser de l'argent public pour que les gens viennent donner leur avis. Moi, ils viennent me voir en mairie, on discute. Hein. Alors, ils me disent des fois, si tu fais pas ce que je fais, tu seras pas réélu. Ça arrive dans nos discussions. Mais enfin, quand même, on se parle franchement. et y compris en allant boire un coup chez toi. Ouais, c'est donc c'est toi qui vas témoigner maintenant.
Ouais. Je me présente, Bernard Jécluse, merci Ernest. alors pour dire, la culture c'est bien gentil, mais il faudrait peut-être s'occuper d'abord de l'économie locale, parce que bon, l'épicerie elle a fermé l'an dernier, hein,
personne... Et la région, rien. Hein.
Ah, rien du tout, rien du tout. Moi personnellement, j'essaie de faire vivre le village comme je peux. Enfin, déjà, j'accueille des événements culturels. Club de macramé, il a exposé dans mon PMU la semaine dernière.
Le collectionneur de Soubac le mois d'avant.
Voilà. Bon, alors c'est bien gentil tout ça, mais nous, l'argent, ça doit d'abord aller à l'économie et pas à la culture, quoi.
Enfin, ou alors à la vraie, la grille.
Ouais, la vraie.
Ouais.
Oui, la vraie. Le moment d'après, c'était pareil, on a été... dans une fête de quartier, dans un quartier populaire, où il y avait énormément de stands sportifs et ludiques. Il y avait des châteaux gonflables, il y avait des animaux à voir, etc. Et on a commencé à débattre sur la question du foot. Et puis de la question du foot, on est parti sur la question de l'arbitre, de la place de l'arbitre, et puis de qui écrit les règles, et puis de qui. Et puis on a fini par parler de politique, et avec des gamins qui avaient 9, 10, 12, 14 ans, et leurs parents, pour avoir du coup un avis là aussi de gens qui d'eux-mêmes ne viendraient pas dans des dispositifs participatifs, mais ils étaient là pour faire la fête, et ils ont passé, pour certains 5 minutes, pour certains une demi-heure ou une heure, à discuter avec nous de citoyenneté et démocratie. Et tout ça, ça vient nourrir notre réflexion aussi, parce qu'on a des avis et des propositions et des idées de gens qui sont complètement, qui viennent de plein d'endroits différents.
Une autre question, vous revenez près du sac. Donc là, la question d'avant, c'était est-ce que le foot c'est violent et là, est-ce qu'on a besoin d'un arbitre? Maintenant, la question, c'est est-ce que la politique c'est violent? Si vous êtes, si oui, vous mettez là. Venez là. Il y a une réponse oui. Est-ce que la politique c'est violent? Oui ou non? Alors, pourquoi est-ce que vous pensez que c'est pas violent la politique?
La politique, déjà, ils imposent des règles en étant le moins violent possible parce que, par exemple, ils ont arrêté les exécutions et tout ça parce que ça servait à rien. Et si ça aurait été violent, donc ils auraient continué les exécutions et les règles ne seraient pas imposées comme ça. Donc ce serait que par violence, donc ce serait comme une dictature.
Si j'essaye de est-ce que j'ai bien compris si je dis que finalement la politique c'est une manière d'empêcher qu'il y ait trop de violence et que ça passe par les armes et que ça passe par la dictature? C'est un peu ça?
Ouais.
Okay. Quelqu'un qui est de ce côté-là. Pourquoi vous êtes mis là vous? Vous êtes du côté de oui, la politique c'est violent et vous êtes des élus. Ça m'intéresse.
Parce que des fois les... Alors c'est pas de la violence physique, hein, mais il y a de la quoi que ça peut arriver, mais enfin c'est poussé à l'extrême. Mais il y a de la violence verbale, c'est des rapports de force. Et des fois, honnêtement, on aimerait nous-mêmes que ça soit un peu plus apaisé, que ça soit plus de la construction. Mais il y a des moments que nous-mêmes on peut trouver violents. Et puis il y a quelque chose qui est violent pour les élus aujourd'hui beaucoup, c'est que tout le monde nous dit que finalement on est tous pourris. c'est un peu dur des fois, voilà. Et donc il y a quelque chose d'un peu violent, même il faut l'entendre faire quelque chose.
Et puis ensuite, on est ici à la fabrique, avec là, c'est plus des gens qui sont militants, qui se posent déjà ces questions, et donc on travaille de manière un peu plus précise et profonde avec des ateliers qui permettent de rentrer dans le détail de ces premières idées qu'on a pu récolter tout au long de la journée.
Ça se travaille bien en amont, c'est bien avant l'âge du vote en fait, qu'il faudrait qu'il y ait une implication des jeunes, des enfants, même des tout petits.
C'est l'expérimentation.
Quand on expérimente dans un petit niveau la démocratie, on la vit, on l'échange, et après progressivement on peut l'étendre.
On s'en imprègne aussi.
On prend l'habitude de participer.
On a les codes aussi. On a une habitude de ces codes-là. Je pense que, par exemple, sur les tout petits, c'est le choix des menus, le choix de la peinture qu'on va mettre dans la classe. Enfin voilà, on commence tout petit, et ensuite on adapte en fonction de la tranche d'âge.
Et habituer les gens à la confiance qu'on place en eux.
Et à la concertation, la participation.
Donner leur avis.
L'implication.
Apprendre à écouter, à débattre, aussi
à entendre la critique.
Défendre son point de vue.
Argumenter
son point de vue. C'est très éducatif.
Je pense que la mise en place de débats, même dans les classes, échanger, argumenter, défendre son point de vue, son opinion, ça doit se faire aussi à l'école. C'est une. On s'expérimente à ça, à l'école.
Chaque étape de la tournée citoyenne s'achève par une fabrique démocratique où des habitants du bassin de vie se retrouvent pour donner leurs idées qui permettraient une meilleure intégration des citoyens au processus de décision politique. Demander son avis aux citoyens en le regardant dans le blanc des yeux et en offrant une poignée de main sincère, pour ranger ses propositions sur une étagère de notre bureaucratie prolifique, c'est sûr, on sait faire. Quels outils, quelles garanties mettons en place pour que cette démocratie permanente ne soit pas qu'un slogan creux proclamé à grande pompe avant que l'on ne retourne bien vite à notre opacité chérie ? Vitrine du projet, la plateforme démocratie-permanente.fr présente les propositions recueillies au fil de la tournée citoyenne. Les internautes peuvent s'y rendre pour voter et argumenter pour ou contre ces propositions, les compléter et en ajouter de nouvelles. Le résultat sera présenté au vote de l'Assemblée régionale en début d'année prochaine.
On va du coup avoir tout un travail de synthèse des propositions autour de la matière qu'on a récoltée dans la tournée citoyenne, dans les fabriques, mais aussi de la matière qui vient du Conseil économique, social et environnemental régional qui a été saisi, du Conseil régional de la jeunesse qui a été saisi, de la matière qui vient des jurys citoyens qui ont été tirés au sort et qui eux aussi travaillent et aujourd'hui ils travaillent en partenariat avec une association de la région. Ils sont du coup très indépendants parce qu'ils font leur travail avec Ville au Carré, qui est une association qui, sur le territoire, les accompagne à produire des idées. Donc en fait, toutes ces idées-là, on les récolte. Le 4 décembre, on vient présenter toute cette richesse d'idées. On vient continuer peut-être à les hiérarchiser, par exemple, à les visualiser. Et puis, ça donne derrière une délibération, c'est-à-dire une loi régionale, un vote, qui sera en janvier ou février de 2018, et qui va du coup graver dans le marbre des décisions de la région autour de la question de la démocratie. Moi, mon impression aujourd'hui, c'est que la région n'est pas prête à aller jusqu'à un changement de fonctionnement de ces institutions. Je vais vous donner un exemple. Il y a des associations qui nous ont dit « Nous, on pratique la prise de décision par consentement et c'est génial, ou l'élection sans candidat et c'est génial dans nos modes de gouvernance et dans nos instances. Il faudrait que la région fasse la même chose dans son hémicycle. » Aujourd'hui, ça me semble aller trop loin pour ce qu'est capable de faire la région en termes de nouvelles formes de gouvernance. Elle n'ira pas là-dedans, je pense. J'aurais peut-être des surprises, ce serait une très très bonne surprise, mais je pense que ça n'ira pas aussi loin que ça. Mais ce qui n'empêche qu'elle va sûrement quand même prendre des décisions sur son fonctionnement interne, sur la manière dont elle implique les citoyens ou les usagers dans la construction des politiques publiques. De quel ordre ça sera exactement, j'en sais trop rien, mais il y aura peut-être... Déjà un pôle d'agents chargés de ça au sein de la région, parce qu'aujourd'hui c'est pas encore complètement le cas. Il y en a quelques-uns qui sont sensibilisés, qui sont formés, mais il n'y a pas un vrai pôle d'agents dédié à la question de la démocratie au sein de la région. Ça va peut-être être ça. Ça va être aussi des décisions qui vont pas concerner uniquement le fonctionnement de l'institution, mais aussi les initiatives citoyennes et les manières de relier, de financer, d'accompagner, de mettre en réseau toutes les initiatives citoyennes du territoire. Voilà, ça va être probablement des choses autour des lycées, des centres de formation des apprentis, des campus d'université, pour voir aussi comment est-ce que dans le parcours de formation d'un citoyen, on peut lui proposer plus de manières de s'impliquer. Voilà. Mais sur tous les sujets, il y aura sûrement des choses. Je vous disais tout à l'heure, il y a une dizaine de thématiques, donc il y aura probablement des propositions et un vote sur une dizaine de thématiques et qui iront plus ou moins loin en fonction de là où on réussit à pousser le curseur auprès des autres élus, auprès de l'institution et aussi en fonction de ce qui aura été priorisé par les citoyens sur la plateforme.
Pas de révolution démocratique en vue donc, mais au mieux un pas sincère dans le bon sens. Aujourd'hui, une centaine de propositions sont présentées sur la plateforme en ligne de démocratie permanente. Plusieurs thèmes ressortent, relations élus-citoyens, instances de participation, numérique, mais aussi diversité des participants. Car c'est ce qui m'a le plus frappé tout au long de la journée, l'homogénéité sociale et culturelle, pour ne pas dire ethnique, des habitants les plus activement impliqués dans la démarche. Classe moyenne éduquée, urbaine, blanche et plutôt de gauche, une initiative donnant la parole au groupe social le mieux intégré et le plus représenté dans les institutions, peut-elle se réclamer d'être démocratique ? La démarche démocratie permanente n'en est encore qu'à ses premiers pas, et le souci de s'adresser aux populations marginalisées, à défaut de pouvoir les transformer immédiatement en force de proposition, semble bien présent. Charles Fournier, l'élu à l'origine du projet, espère que les premières mesures prises à la suite de cette tournée citoyenne pourront, à l'avenir, élargir le cercle des participants aux habituels exclus et oubliés des politiques publiques.
Il y a une proposition que je cite souvent parce que je trouve qu'elle est porteuse de quelque chose d'un peu durable, c'est l'idée d'avoir dans les territoires des réseaux d'ambassadeurs de la démocratie permanente, c'est-à-dire des structures, ça peut être une asso, des personnes à qui on donnerait des moyens, on apporterait de la méthode, des formations, etc., etc., qui pourraient continuer à faire travailler ce chantier dans la proximité. Parce que ça a été dit plein de fois, c'est quand même localement qu'on va inventer des choses nouvelles. Donc je trouve que là, la région, elle aurait un vrai rôle à jouer de labelliser ce réseau, le faire fonctionner, le faire vivre, l'animer, pour que tout ça, ça continue. Voilà. Je trouve que c'est une première mesure, elle est ressortie plusieurs fois, qui est intéressante. Et une des deuxièmes propositions qui est ressortie, c'est de dire, bah pareil, il y a des structures dans les territoires qui sont des lieux, sans qu'on le sache, qui jouent un rôle d'informateur, qui accompagnent des initiatives, voilà, mais qui n'ont pas toujours les moyens de ça. Donc moi, ce serait de leur donner les moyens d'être des incubateurs d'initiatives citoyennes dans les territoires. Il y a besoin d'accompagner, il y a besoin de simplifier, il y a besoin de rendre plus lisible. Et ben dans des endroits comme ça, on pourrait décoder, on pourrait accompagner des projets portés par des citoyens. Voilà deux mesures qui, je trouve, peuvent être très concrètes. On imagine dans la région centre, par bassin de vie, un lieu qui sert à féconder les initiatives citoyennes. Moi, je trouverais ça... je pense qu'il y aurait matière là, à bouger les lignes de manière très forte.
D'accord. Oui, c'est surtout des initiatives pour un petit peu sortir de cet entre-soi auquel, pour l'instant, vous êtes encore un peu confiné, quoi.
Oui, alors, on y est... en même temps, quand je regarde dans la tournée, on a touché une diversité des gens, mais on les a touchés dans des endroits différents. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est faire en sorte que tous ces gens se rencontrent dans le même endroit. Ça, ce n'est pas facile. Mais dans ces initiatives, oui, il doit y avoir des initiatives qui répondent aussi aux enjeux du territoire, tout simplement, économiques, environnementaux, sociaux. Et à l'intérieur de ça, effectivement, quelque chose qui permette d'élargir. Il faut que ça soit accessible à d'autres. Il faut que ça devienne plus simple. Il faut qu'on sorte effectivement des formes d'entre-soi. Et ça se jouera dans la proximité. Voilà. Et donc, je pense que c'est par les citoyens que ça va passer. C'est-à-dire que c'est aussi les citoyens qui arriveront à... Les citoyens ou les habitants. Moi, j'avais dit lors du lancement, si chacun d'entre nous prend un temps pour aller voir 5 personnes, qu'il sait loin de tout ça, il arrivera lui à titre individuel à convaincre ces 5 personnes. C'est pas compliqué de faire ça, sauf qu'on le fait pas. On reste entre semblables. Si on fait ce petit bout de chemin, et ça je crois qu'on peut le faire, on peut être nombreux à le faire. C'est pas très compliqué. Donc ces ambassadeurs, ils pourraient jouer ce rôle-là aussi. On peut les faire du porte-à-porte. Enfin voilà, il y a plein de choses à imaginer.
C'est pas si simple dans le sens où finalement on parle un langage là avec des outils numériques, avec des concepts qu'on mobilise, qui parlent aussi à cette population très intégrée.
C'est sûr. Mais c'est
comment on traduit ce langage, c'est pas donné.
C'est sûr. Moi, je me rappelle d'une discussion qu'on a eue avec des jeunes dans une maison familiale et rurale. C'est des jeunes avec des parcours bien compliqués. Première question, c'est quoi la démocratie? Alors là, les formateurs faisaient la gueule parce qu'ils avaient fait des cours et voilà, ils avaient l'impression que ça ne servait à rien. Et puis, moi, j'avais dormi dans la structure la nuit. Donc, je leur ai posé la question, mais en fait, comment vous vous organisez là? Parce que ce matin, on s'est levé, vous étiez en train de faire le ménage, vous avez géré le petit déjeuner et tout. Et puis là, du coup, ils sont partis en discussion. On décide comme ça, ça se passe comme ça. Et d'un coup, ils sont arrivés à la question de la démocratie, en partant de leur vécu. Voilà. C'est ça, je crois qu'il faut repartir de ce que les gens vivent et pas et seulement de concepts. Et là, en partant tout simplement de comment on s'organise dans une EMFR pour gérer le ménage, gérer la bouffe, prendre des décisions, mais c'est la question de la démocratie, c'est pas autre chose. Voilà. Donc je crois qu'il faut resituer ça dans l'expérience. Voilà. C'est ça, il faut repartir de ces expériences concrètes, je crois.
Voilà, c'est la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous nous sommes penchés sur la tournée citoyenne pour une démocratie permanente. Un projet porté par la région Centre et par le collectif Démocratie Ouverte qui doit conduire à terme à une meilleure implication des citoyens dans le processus de décision politique. La démarche est intéressante. En deux mots, amener les citoyens à faire des propositions qui devront ensuite être votées au Conseil régional. Les mesures adoptées doivent créer les conditions nécessaires à l'émergence d'une démocratie plus participative. Le caractère expérimental de cette initiative d'un côté, la résistance prévisible des élus à déléguer une partie de leurs prérogatives à la société civile de l'autre, malgré de bonnes intentions, on a toutes les raisons de craindre que la montagne n'accouche d'une souris. Rendez-vous le 4 décembre prochain donc, quand sera présentée la synthèse des propositions recueillies et surtout début 2018 quand on connaîtra les mesures effectivement prises par le Conseil régional. En attendant, retrouvez cet épisode et tous les détails concernant la démarche pour une démocratie permanente en région centre dans la rubrique Feuilles vives du site studiozef.fr. Citoyennes, citoyens, à bientôt.
Quelle belle vallée, avec ses fermes et ses fermiers, avec ses graines et ses greniers, bondées.